Chapitre 17. En ressortant de la salle d'interrogatoire, je luttais pour conserver mon sang-froid. Mais à vrai dire, j'étais profondément secouée. Mon père adoptif avait raison. Reprendre contact avec ma sœur m'avait seulement ramenée dans la maison de l'horreur dont j'avais eu la chance de m'échapper la première fois. Je baissai mon index taché de sang, consciente du regard de Didi sur moi, pendant que Phil et la directrice conversaient à deux pas de là. « Venez, » me dit tout d'un coup Didi, en montrant ma main. « On va vous trouver des toilettes pour nettoyer ça. » Comme elle s'éloignait déjà, je la suivis. À mes yeux de médecin, Didi était en meilleure forme ce matin. Usage efficace de techniques éprouvées contre la douleur, ou simple effet de l'adrénaline chez une enquêtrice de nouveau lancée sur la piste d'un tueur? Alors que l'entrevue avec ma sœur m'avait lessivée, Didi semblait grisée. « Vous l'avez manipulée, » dit-elle. Après avoir joué la clinicienne tout en froideur, vous êtes d'un seul coup passée à l'attaque. Vous avez minimisé l'intérêt de ses souvenirs, vous lui avez volé la vedette, bref, vous avez agi comme une sœur. Et ensuite, cette scène où vous lui agitez votre doigt plein de sang sous le nez, un trait de génie. Je ne répondis rien, mais resserrai mon poing autour de mon index rougi. Le problème, quand je parlais avec Shanna, n'était jamais son obsession de la violence. C'était la manière dont ses pulsions entraient en résonance avec les miennes. Un affrontement de fauves, un affrontement de sœurs, au terme duquel j'avais réellement eu envie de porter mes doigts à mes lèvres, de prendre une petite lichée délicate. Nous étions arrivés devant des toilettes mixtes, équipées d'une porte vitrée qui annulait toute possibilité d'intimité pour le détenu, ou pour le visiteur. Je fréquentais la prison depuis suffisamment longtemps pour en connaître les installations. Je me contentais de me laver les mains, point final. Didi m'attendait dans le couloir. « Vous croyez qu'elle sait réellement quelque chose ?» me demanda-t-elle à la sortie. « Sur l'existence d'un lien entre les crimes de votre père et ses nouveaux meurtres ?» J'hésitais. « Vous connaissez Charlize Garzi, le journaliste ?» L'enquêtrice fit signe que non. « C'est le cousin de Donnie Johnson, le gamin assassiné par Shanna », expliquai-je alors que nous retournions vers Phil et la directrice. Cela fait 3 mois qu'il écrit à Shanna pour obtenir une interview en vue d'un livre sur le meurtre de son cousin. Étant donné le mal que Shanna a fait à sa famille, il estime qu'elle lui doit bien ça. Je vois. Comme Shanna n'a jamais répondu à ses lettres, il s'est pointé chez moi hier soir pour plaider sa cause en personne. Il prétend aussi avoir interrogé des détenus qui ont purgé une partie de leur peine avec Shanna. D'après lui, elles affirment qu'elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Comme si elle avait gardé des contacts à l'extérieur et qu'elle pouvait tirer les ficelles depuis sa cellule. « Comme un baron de la pègre ?» s'étonna Didi. « Peut-être. Le hic, c'est qu'elle ne se lie pas avec ses codétenus, n'entretient pas de correspondance et ne reçoit personne pendant ses heures de parloir. Je suis sa seule visite, une fois par mois. À part ça, elle passe 23 heures par jour à l'isolement. Je ne vois pas comment elle aurait su ou pu se construire le réseau social nécessaire pour nouer des contacts avec l'extérieur. Cela dit, je ne terminais pas ma phrase. Cela dit, c'est vrai qu'elle sait des choses. Des petites choses anodines, disons, la couleur du nouveau pull que je viens d'acheter. Des détails un peu inquiétants, mais sans importance, et assez faciles à expliquer. Peut-être que je lui avais parlé de l'achat de ce pull et que ça m'est sorti de l'esprit. Cependant, ce type de remarque s'est multiplié chez elle ces derniers temps. Depuis quelques mois, à chaque fois que je viens la voir, ma sœur détient sur moi une information sans que je me l'explique. Vous pensez qu'elle vous surveille? Ou plus précisément qu'elle vous fait surveiller? Je ne sais plus quoi penser. 153, rappela Didi. Je secouai la tête. J'ignore ce que ça signifie. Rien dans ce chiffre ne vous évoque aridé? Non, il va falloir que je relise les dossiers. Ce serait super. Dieu sait que Phil ne racontait pas que des cracks quand il disait qu'il faut remplir des tonnes de paperasses et s'armer de patience pour exhumer de vieux dossiers des archives de la police. Il nous faudra bien 6 semaines pour obtenir ces informations, et encore, si on a de la chance. Donc ça nous rendrait grand service si vous pouviez déjà jeter un coup d'œil. Aussitôt que je serai chez moi. Parfait. En attendant, allons discuter avec la directrice. Si quelqu'un sait comment votre sœur peut être en contact avec l'extérieur, c'est bien elle. Kim McKinnon ne leur laissa aucune illusion. Communiquer avec l'extérieur? Pour être franche, la plupart des détenus se débrouillent pour avoir des rapports sexuels dans un établissement où les contacts physiques sont interdits. Qu'elles se parlent est le dernier de nos soucis. D'après la directrice, les techniques de communication entre détenus étaient nombreuses et ingénieuses. Même si Shana était confinée à une cellule de haute sécurité, elle prenait régulièrement des livres dans le chariot de la bibliothèque ambulante, commandait des articles à la cantine et recevait des plateaux repas 3 fois par jour. En prison, toute transaction était l'occasion d'envoyer ou de recevoir un message. Notes griffonnées, mots soufflés au passage ou communications astucieusement codées. C'est triste à dire, avoua la directrice. Mais certains échanges entre détenus sont même facilités par les surveillants en contrepartie d'argent, de drogue ou de faveurs sexuelles. Bon, vous vous en doutez. Shana n'est pas vraiment populaire, mais peut-être que l'autre, celle avec qui elle est en contact, oui. Et certaines détenues prêtent volontiers leur concours à ce genre de transactions, ne serait-ce que pour dissiper leur ennui. Le fond du problème, c'est que nous n'avons qu'une heure ou deux par trimestre pour évaluer notre politique et revoir nos procédures, tandis que les détenus passent 365 jours par an à chercher les failles du système. C'est simple. Il y a ici des femmes assez intelligentes pour diriger les plus grandes entreprises du pays si seulement elles mettaient leur talent au service du bien plutôt que du mal. Est-ce qu'il y aurait une détenue dont Shana serait proche? Une amie, passée ou présente? La directrice fronça légèrement les sourcils. Pas que je sache, ce qui est d'ailleurs extrêmement surprenant. La plupart des détenus nouent des relations, même une femme aussi endurcie que Shana. Il y a des détenus plus jeunes, plus vulnérables, qui éprouvent de l'admiration pour ce type de personnalité. Et qu'elles se considèrent comme hétérosexuelles ou lesbiennes, la plupart des condamnés à la perpétuité finissent avec une partenaire. Mais, à ma connaissance, Shana n'a jamais eu la moindre petite amie. « Elle ne m'a jamais parlé de personne », confirmai-je. Rien non plus si on regarde ses achats à la cantine. Un des premiers signes d'une relation naissante est qu'une détenue se met à acheter des cadeaux pour une autre. Comme dans la vraie vie. Un flacon de shampoing, une lotion parfumée. Mais Shana fait très peu d'emplettes et elles lui sont exclusivement destinées. Et personne ne lui fait parvenir de cadeaux. Je dirais même... La directrice eut une hésitation. Elle coula un regard vers moi. Je hochai la tête en signe d'assentiment. « Je m'inquiète de l'isolement quasi total de Shana », continua la directrice. « Malgré ce qu'on pourrait croire, il n'est pas dans notre intérêt que les détenues soient malheureuses. La dépression engendre de la colère, laquelle engendre un risque accru de violence. Comme j'en ai discuté avec le docteur Glenn, il y a plusieurs mois que l'état psychologique de Shana me préoccupe. Il était évident à mes yeux qu'il se dégradait, ce qui explique que la tentative de suicide d'hier ne m'a pas surprise. « Une seconde, » l'arrêta Didi. « Vous voulez dire que vous aviez noté un changement dans son comportement? Depuis quand? 3 ou 4 mois, je dirais. Je pensais que ça avait un rapport avec l'anniversaire de son premier meurtre qui approchait, mais je n'ai aucune certitude. » Shana aurait droit à un suivi psychiatrique, mais elle a refusé toutes les propositions. « Qui s'occupe de son dossier ?» demanda Phil. Je levai la main. « C'est moi. Je suis psychiatre, en plus d'être une des rares personnes à qui Shana accepte de parler. Même si ce n'est pas tout à fait orthodoxe de prendre en charge un proche, Shana et moi n'avons pas vraiment une relation classique. Nous n'avons même pas vécu comme une famille pendant la majeure partie de notre vie. « Mais elle vous appelle sœurette, » souligna Didi. « Seulement quand elle me cherche. » Comportement habituel entre sœurs. Et comportement habituel chez une patiente hostile à l'idée de changement. dis-je en regardant Didi d'un air entendu. Vraiment, vous seriez étonné de voir ce que peuvent faire ou dire mes patients pour résister à ma thérapie. Didi me décocha un grand sourire, où l'on ne décelait pas le moindre repentir. Puis elle tourna de nouveau son regard vers la directrice. « Est-ce que le nombre 153 vous dit quelque chose ?» La directrice ne voyait pas. « Est-ce que vous croyez possible que Shana soit en contact avec ce tueur à la rose, comme on l'appelle, ou que le tueur communique avec elle ?»« Ma foi, pourquoi pas ? Mais j'aimerais bien savoir comment. L'idée qu'un tueur en activité communique avec une meurtrière incarcérée ne m'aiderait pas à passer de bonnes nuits. » « Je peux dire quelque chose ?» Trois paires d'yeux se tournèrent vers moi. Ce n'est peut-être pas le moment de s'inquiéter du comment, mais plutôt du pourquoi. Shana a commis un crime abominable, mais c'était il y a près de 30 ans. L'affaire n'est plus sous les feux de l'actualité, ce qui a permis à Shana de faire profil bas pendant des années. Peut-être que la semaine prochaine, avec l'anniversaire, ça changera, mais jusqu'à présent... « On ne lui connaît même pas de correspondant ni d'admirateur, » renchérit la directrice. « C'est rare. En général, plus l'assassin, homme ou femme, est célèbre, plus il reçoit de courriers, agrémentés ou non de demandes en mariage, » ajouta-t-elle, pince sans rire. « Pour une tueuse aussi connue, Shana mène une existence tranquille. » « Et si l'important, c'était Haridé ?» suggéra Didi en se tournant vers moi. « Si quelqu'un... Disons un fan, voulait se renseigner sur votre père. Sur Harry, rectifiai-je. C'était plus fort que moi. Sur les méthodes de Harry, continua Didi sans moufter. Il ne s'adresserait pas à vous, n'est-ce pas? Sachant que vous êtes une psychiatre qui a pignon sur rue. Il m'arrive de recevoir des lettres, la détrompai-je. Ah bon? Les deux enquêteurs avaient maintenant les yeux fixés sur moi. « Il m'arrive de recevoir des lettres, » répétai-je lentement. « Pas souvent, mais de temps à autre. Les crimes de Harry remontent à un bail, mais vous imaginez bien qu'il y a des gens fascinés par les tueurs en série de toutes les époques. D'où l'aura de légende qui entoure encore Bonnie et Clyde. Étant donné que ma maladie rare a fait de moi l'objet de plusieurs articles qui me présentent comme la fille de Harry Day, je reçois du courrier. Environ 3 ou 4 lettres par an. Parfois, on me pose des questions sur Harry. Comment était-il? Qu'est-ce que ça fait d'être sa fille? Mais le plus souvent, on me demande des souvenirs. Est-ce que j'aurai encore en ma possession certains de ses effets personnels? Et est-ce que ça m'intéresserait de les vendre? Sans blague, demanda Didi avec un mélange d'intérêt et d'épouvante. Ce qui correspondait grosso modo au cocktail d'émotions que faisait naître Harry D chez les gens. 1/3 terreur, 2/3 curiosité morbide. Il y a un marché relativement important pour les souvenirs de tueurs en série, lui expliquai-je. Plusieurs sites internet font commerce de lettres de Charles Manson ou de tableaux peints par John Allen Muhammad. Je me suis renseignée le jour où j'ai reçu la première demande. Les objets avec lesquels on peut gagner gros sont ceux qui ont appartenu aux vraies vedettes. Les Manson, Bundy, Dahmer. Harry Day n'est pas un nom qui se reconnaît au premier coup d'œil. Dans une liste d'articles vendus entre 10 et 10 000 dollars, une lettre signée de lui avoisinerait plus les 10 dollars. « Vous les gardez, ces lettres que vous recevez ?» demanda Phil. « Je les déchire. Elles ne sont pas dignes de mon temps ni de mon attention. »« Est-ce que certains vous auraient écrit plusieurs fois ?» insista Didi. « Pas que je me souvienne. » Didi se tourna vers Phil. « Et si notre homme... » avait d'abord écrit à Adeline. Puis, voyant qu'elle ne répondait pas, avait retrouvé et contacté Shana. « Elle a reçu des lettres, non ? » demanda-t-elle en regardant la directrice. « Oui, il arrive qu'elle en reçoive, mais pas énormément. » « Et depuis un an ? » ?»« Il va falloir que je me renseigne. » Donc, il est possible que Shana ait reçu une lettre, et même qu'elle ait décidé de répondre. Sauf qu'elle s'est dit qu'à la seconde où elle répondrait, et entretiendrait enfin une correspondance après toutes ces années, vous vous intéresseriez à son cas. C'est sûr, confirma la directrice avec un signe de tête. Donc, elle est passée par un canal parallèle, si je puis dire. Elle a utilisé un autre moyen de communication pour le joindre. peut-être avec la complicité d'une codétenue ou d'une surveillante, voire de son avocat. Didi nous interrogeait du regard, la directrice et moi. Shana a un avocat commis d'office, expliquai-je. Elle ne l'aime pas, et je ne me souviens même pas quand elle l'a vu pour la dernière fois. Il y a 2 ans, précisa la directrice. Shana lui a mordu le nez. Nous lui avons confisqué sa radio. Elle a répondu que ça valait quand même le coup. Didi hocha la tête. D'accord, on progresse. Il s'agirait d'un tueur qui s'identifie à Harry Day et qui aurait peut-être noué une relation avec sa meurtrière de fille. Sympa. Laquelle fille a prophétisé que nous la laisserions sortir de prison à la première heure demain matin, ajouta Phil plus lentement. Je parierais que c'est sa récompense dans cette histoire. Même pas en rêve, s'exclama Didi. On est bien d'accord, dit la directrice avec fermeté. Ma prisonnière, mon établissement, point barre. Je regardais ces 2 femmes et regrettais de ne pas partager leur certitude. Au contraire, je m'entendis murmurer « 153 ». « Vous avez trouvé la signification de ce chiffre ?» demanda aussitôt Phil. « Non, mais connaissant ma sœur, je crois que nous n'allons pas tarder à le regretter. »